dans l'Ancien Testament, du moins, c'est à propos du ministère de prophète, c'est-à-dire de porte-parole du Seigneur, que nous voyons le Seigneur lui-même appeler des hommes qu'il a choisis. Dans le Nouveau Testament, sans doute, c'est la vocation apostolique qui ressort avec encore plus de relief, mais il me semble qu'il nous serait trop difficile de l'étudier. Le sujet est plus délicat parce qu'à la vocation apostolique se rapporte aussi le contact historique avec le Christ ressuscité, comme on lit au chapitre 1er du livre des Actes. Ce facteur additionnel complique les choses et il me semble plus utile pour nous de nous concentrer sur la vocation de quelques prophètes. Dans la vocation prophétique, les composantes du choix divin et de l'habilitation divine sont particulièrement visibles, parce que sans doute c'est par le prophète que le Seigneur intervient le plus directement dans les affaires de son peuple. Dans le cas du prêtre, par exemple, il y a la continuité d'une ligne familiale. C'est dans la lignée d'Aaron que le prêtre doit être choisi. De même pour les rois. L'aspect dynastique, pourrait-on dire, tempère l'exercice de la liberté élective de Dieu, mais il n'y a pas ce même lest institutionnel ou familial dans le cas du prophète, et ainsi la vocation que le Seigneur adresse apparaît de manière encore bien plus saisissante. L'exemple de la vocation spéciale nous intéresse tous, je crois. Certains d'entre nous, de façon immédiate, que le Seigneur nous ait déjà appelés à un ministère du genre de celui du prophète, même si c'est plutôt du côté de l'enseignement, du côté du service d'administration de son église, du gouvernement, que sais-je, ou que le Seigneur se prépare à en appeler parmi vous. J'espère bien que le Seigneur en appelle et en appellera. Ou, d'autre part, que nous suivions l'analogie à propos des emplois professionnels séculiers de cette vocation spéciale. D'après tout ce que j'ai essayé de plaider hier soir, il y a une catégorie 3 qui peut se joindre à la catégorie 2 dans la distinction des trois catégories de vocation que nous avons faites. Alors, nous sommes, je crois, tous concernés. Tous, nous avons des leçons à tirer de la manière dont Dieu a appelé au ministère prophétique certains de ses serviteurs de l'Ancien Testament. Et je voudrais méditer de façon comparative, d'où la rapidité du survol, hein, bien sûr, nous irons vite, les vocations des trois grands prophètes écrivains de l'Ancien Testament et du quatrième dont le livre suit les leurs dans l'ordre habituel de nos Bibles, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Daniel n'est pas classé parmi les prophètes dans l'ordre du canon hébraïque, mais il est prophète néanmoins. Jésus l'appelle prophète. En Matthieu 14, verset 15, Jésus lui-même dit le prophète Daniel. Et il me semble approprié d'étudier les points communs et aussi les différences entre les vocations donc des trois grands et de Daniel. Je commence par lire le récit que nous fait Ésaïe de sa vocation au chapitre 6 de son livre. Ésaïe 6. Je fais mes diverses lectures dans la Bible à la Colombe, c'est donc la Bible second révisée, celle qui en général, pas toujours bien sûr, mais en général, colle du plus près au texte original parmi les versions sur le marché aujourd'hui. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu !» Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours mais ne comprenez rien, regardez toujours mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, il repassera par l'incendie. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leurs souches quand ils sont abattus, sa souche donnera une sainte descendance. » Ce qui ressort d'abord, je pense, de cette vision reçue par Ésaïe dans le temple en 740 avant Jésus-Christ, c'est la majesté de l'Éternel. C'est sur un trône élevé qu'Ésaïe le contemple et il s'écrie « Mes yeux ont vu le roi ». Certains ont fait remarquer le contraste probable entre ce roi majuscule, le roi qu'est l'Éternel, et puis le roi simplement humain, trop humain, qu'avait été Ozias, l'année de la mort du roi Ozias. Ce roi mortel, ce roi lépreux en plus, vous vous rappelez que dans un mouvement de présomption, il avait voulu usurper le rôle des prêtres et avait été frappé d'une lèpre, qui l'empêchait d'exercer réellement les prérogatives de sa fonction. La royauté du Seigneur et aussi sa sainteté que proclament et signifient les séraphins, c'est-à-dire les ardents. Le mot vient du verbe brûler. Il est employé précédemment pour les serpents brûlants et plus tard aussi dans le livre d'Ésaïe. Ce sont des figures qui représentent la sainteté insoutenable de l'Éternel et qui la disent encore « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Face à ce Dieu de pureté consumante, Ésaïe se sent radicalement inapte et tout spécialement parce qu'il a les lèvres impures et qu'il est solidaire d'un peuple aux lèvres impures. Pourquoi cette attention sur les lèvres? Je suppose qu'Ésaïe commençait déjà, plus ou moins confusément, à percevoir l'intention de cette révélation que le Seigneur lui donnait de sa sainteté. Il comprenait que le Seigneur allait l'appeler au service prophétique, c'est-à-dire donc un service de la parole de Dieu. Et c'est son inaptitude radicale du fait de son impureté qu'il ressent face à la tâche à accomplir. Comment un homme aux lèvres impures pourrait-il porter la parole sainte du Dieu saint? Et le Seigneur l'habilite pour le ministère en lui appliquant la vertu du sacrifice que représente donc cette braise prise sur l'autel. Sur l'autel étaient offerts les sacrifices pour le péché, les sacrifices expiant la faute, pour que les lèvres du prophète deviennent aptes à porter, à émettre la parole de Dieu, Ésaïe reçoit donc symboliquement l'effet du sacrifice. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. Et à ce moment-là, alors, Ésaïe peut répondre à l'appel. Qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Et il peut entendre l'étrange avertissement que le Seigneur ajoute aussitôt. Un avertissement qui signifie, en tout cas, que tous les labeurs du prophète sembleront aboutir à l'échec. Alors qu'il prêchera à ses concitoyens au nom de Dieu, l'effet sera. Et Dieu le sait d'avance, et on voit le prophète avec cette connaissance, l'effet, Dieu le sait, l'effet sera d'endurcir le cœur du peuple. Voilà les grands traits de l'invocation que reçoit Ésaïe. Alors ce qui m'intéresse maintenant tout spécialement, c'est la correspondance avec les grandes lignes du message qu'Ésaïe, on s'en rend compte en lisant tout le livre, a porté à ses concitoyens. Il y a une consonance privilégiée entre les notes décisives de la vocation et les traits les plus marqués du message d'Ésaïe. C'est le même registre de puissante objectivité. Le message d'Ésaïe se concentre sur l'œuvre de Dieu, sur la royauté du Seigneur qui seul doit être exalté, de telle sorte que tout orgueil humain doit être abattu devant lui. C'est un message qu'on trouve dès les premiers chapitres du livre. Et en particulier, le prophète souligne qu'à cause de la grandeur de Dieu et de son exclusion de toute prétention humaine devant lui, c'est en Dieu seul qu'il faut se confier. Ésaïe est le prophète de la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas établi. Et malheur à celui qui se confie en l'homme. Voilà ce que souligne le prophète en plein accord avec ce sens que dès sa vocation, il a reçu de la royauté du Seigneur. Il y a aussi chez lui la nette conscience de la nécessité du sacrifice expiatoire pour que l'homme puisse se tenir devant Dieu. Ce n'est pas un hasard. Si c'est dans le livre d'Ésaïe que l'annonce du sacrifice expiatoire par lequel nos péchés sont effacés se trouve faite avec la plus grande clarté. Le chapitre 53 d'Ésaïe, vous le connaissez tous. C'est chez Ésaïe que se trouve annoncé de quelle manière Dieu allait nous libérer de notre péché par celui qui, agneau de Dieu, porterait le péché à la place des coupables. C'est cet Ésaïe qui lui-même avait, lors de sa vocation, reçu symboliquement l'effet du sacrifice sur les lèvres. C'était le message qui convenait en ce temps-là. Le temps de la vie d'Ésaïe, c'est un temps de crise pour l'institution royale en Juda. C'est un judéen, un homme de Jérusalem, et la royauté, qui est la grande institution objective, avec celle du sacerdoce, du temple, et c'est dans le temple qu'il reçoit sa vision. Cette institution royale était en crise. Le roi Akaz, qui a succédé au pouvoir au roi Ozias, c'était le petit-fils du roi Ozias, a été un gredin idolâtre, incrédule, et le prophète Ésaïe a dû se dresser contre lui et lui adresser des paroles de jugement. C'était un temps de crise, mais ce n'était pas encore le temps final pour cette dynastie. Il y avait encore un espoir pour elle. Et le fils d'Ozias a été un roi fidèle, le roi Ézéchias. Et à certains égards, on peut se rendre compte que le roi Ézéchias a fait figure un peu de nouveau David et de nouveau Salomon à son époque. C'est le roi Ézéchias et sa capitale que Dieu a miraculeusement délivrée en frappant le camp assyrien. La situation paraissait désespérée, mais le Seigneur a délivré en 701. Donc il y avait un bel ajustement du message à cette période de crise pour l'institution objective. Et puis il y a un accord aussi remarquable avec la personnalité d'Ésaïe, son génie polyvalent, merveilleusement équilibré. C'est le plus riche sans doute de tous les orateurs de l'Ancien Testament, orateurs et poètes qu'Ésaïe. Et il était probablement, donc très très plausible, formé pour devenir l'un des sages royaux, l'un des conseillers. La tradition juive en fait même un membre de la famille royale. Ça ne peut pas être vérifié, mais il appartenait à coup sûr à l'aristocratie de Jérusalem. Et jeune homme, il avait certainement dû se préparer à exercer de hautes fonctions dans le gouvernement du pays. Donc, la manière dont le Seigneur se révèle à lui dans sa royauté correspond aussi à la situation de ce jeune Ésaïe. Pour Jérémie, nous allons voir à la fois ce qui ressemble et ce qui diffère. Jérémie, c'est en 627, donc nous faisons un bond de plus d'un siècle. C'est en 627 qu'il est appelé au ministère prophétique. Et voici, non pas tout le chapitre qui nous le raconte, parce que ça me prendrait un peu trop de temps, je crois, de le lire en entier, mais quelques fragments significatifs du récit de la vocation de Jérémie. C'est le premier chapitre. Au verset premier, parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. Puis verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche de l'amandier hâtif. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu. » car je me hâte d'accomplir ma parole. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois une marmite bouillonnante du côté du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du nord que le malheur éclatera sur tous les habitants du pays. » Alors il continue d'expliquer cet oracle, et je continue au verset 17b quant à moi, « Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, des murs de bronze, contre les rois de Juda, contre ses ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Là encore, tout commence par une révélation de Dieu. Dieu se présente en personne. Mais la tonalité n'est plus la même que dans la vision d'Ésaïe. Et le lieu même n'est plus le temple, il n'est pas précisé, mais ce n'est plus le temple qui était le symbole de l'ordre objectif de l'ancienne alliance. Ce qui ressort de la parole que Dieu adresse, me semble-t-il, quant à Dieu, c'est sa précédence et sa pédagogie. Il me semble qu'on peut dire que Dieu se montre le maître de Jérémie et de toute chose d'ailleurs, dans les deux sens, de la maîtrise. C'est lui qui, dès avant que Jérémie soit formé au sein de sa mère, avait tout décidé, il l'avait mis à part. Précédence, il est le maître des circonstances, des événements. Et aussi dans le sens du magistère, du maître au sens du formateur, de l'éducateur. Dieu se montre ici comme un habile pédagogue sur un ton assez familier. Jérémie, de même qu'Ésaïe, sent son insuffisance pour la tâche à accomplir. Mais ce n'est pas sur l'impureté de ses lèvres qu'il insiste, c'est sur son inexpérience. Je suis trop jeune, je suis qu'un jeune garçon, trop tendre pour le travail, pour la mission. Et Dieu répond en lui mettant sa parole dans la bouche, tout simplement, et en lui donnant une première leçon. Les deux signes qu'il associe, on les a comparés, je crois que c'est André Néer qui, de Strasbourg, le savant juif de Strasbourg, qui l'a fait, on les a comparés à des exercices d'apprentissage. Le prophète doit pouvoir interpréter les visions qu'il reçoit. Alors Dieu lui en donne, le premier jour, deux qui sont ultra simples, c'est l'ABC du métier. Un amandier hâtif, le nom même de l'amandier évoque ce que Dieu va dire. Il faut qu'il comprenne que c'est un symbole de la vigilance de Dieu qui accomplit sa parole. Et puis une marmite sous un feu qui déborde du côté du nord, voilà, qui va représenter les invasions terribles dont le prophète fera l'annonce. Donc Dieu se montre là pédagogue pour habiliter le prophète dans le problème, et le problème d'un manque d'assurance et d'expérience pour la mission qui lui est confiée. Je pense qu'on peut aussi parler de la pédagogie des paroles finales. De nouveau, le prophète est averti que ce ne sera pas facile, qu'il rencontrera une terrible opposition. Et pour le préparer, le Seigneur use de deux moyens en les combinant. Et c'est très, très typique de la pédagogie du Seigneur. D'une part, il le rassure, il lui promet son soutien. Je suis avec toi, je ferai de toi une muraille de bronze, etc. Mais en même temps, il l'avertit. Il y a de la fermeté dans cette pédagogie. Ne tremble pas devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Il ne s'agit pas non plus de laisser le jeune Jérémie s'apitoyer sur lui-même et de le conforter, je dirais, dans l'idée qu'effectivement il est trop faible, tout le monde est contre lui et tout. Dieu l'avertit, lui promet son soutien, mais lui demande aussi de se comporter en homme et en adulte face à cette opposition. Voilà comment les grands traits de cette vocation m'apparaissent. Or, de nouveau, une correspondance admirable se découvre avec le message de Jérémie. L'intimité du mode de la conversation entre Jérémie et son Dieu, entre l'Éternel et Jérémie, correspond à l'accent le plus frappant de tout le message de Jérémie. J'aime à dire que le cœur du message de Jérémie, c'est le message du cœur. Jérémie est le prophète de l'intériorité. Il souligne d'abord que le problème du péché, c'est le problème de l'enracinement dans le plus intime de l'homme, de son péché. C'est lui qui compare si souvent le péché à une maladie inguérissable, qui est vraiment comme diffusée dans toute la nature de l'homme. Qui le compare aussi à quelque chose d'écrit sur le cœur de l'homme, chapitre 17, si je me rappelle bien. Donc il met l'accent sur l'intériorité du péché et sur l'intériorité de l'œuvre de salut. C'est lui qui annonce au chapitre 31, dans le plus fameux des passages de son livre, la Nouvelle Alliance, caractérisée par le fait que Dieu écrira sa loi sur le cœur, c'est-à-dire le centre de la personne, de ceux qui appartiendront à cette nouvelle alliance. Donc vous voyez la correspondance entre cet accent et la manière même dont Dieu parle à Jérémie le premier jour et d'ailleurs à d'autres reprises dans le livre. Nous avons aussi un accord quant à cet accent sur l'intériorité avec ce que Jérémie a dit de la disparition du temple. Jérémie était le prophète, et ça lui a suscité beaucoup d'opposition, qui a dû annoncer que le temple allait être détruit. Pour beaucoup d'Israélites, le temple était une sorte de talisman. Dieu avait décidé d'y faire résider son nom, sa gloire. Il était impensable que Dieu, même lorsqu'il laissait les ennemis pénétrés dans le pays ne sauvent pas au moins in extremis son temple. Et Jérémie a fait scandale, chapitre 7 et autres, en disant que le temple allait être détruit. Et non seulement il a annoncé cette destruction du temple, mais au chapitre 3, il annonce la disparition de l'arche, l'arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, et il annonce que cette arche disparaîtra et qu'on n'en refera pas d'autre, que dans les temps de salut qu'il annonce, on n'y pensera même plus. Une façon de dire que le système extérieur, dans ce registre d'objectivité que représentait le temple et l'arche, que ce système extérieur sera aboli, remplacé par une œuvre d'abord intérieure du Seigneur. Et c'était bien le message pour le temps où Jérémie était placé, puisque c'était le temps de l'agonie de l'ancienne alliance, le temps du naufrage de ces institutions extérieures, avec les derniers rois qui ont été des gredins ou des faibles, le roi Joachim et le roi Sédécias, avec des prêtres tout à fait indignes, remplissant le temple de corruption, d'idolâtrie. Et c'était le temps donc où cette ancienne alliance, à cause du péché des hommes, montrait qu'elle ne pouvait pas conduire au but. C'était une ancienne alliance qui devait être remplacée par une alliance avec un autre régime. Et Jérémie, c'était l'homme pour dire ça. L'homme pour dire ça à cause de sa sensibilité, à cause de sa faiblesse, de sa tendreté, si je puis dire, pour annoncer un message si dur, Dieu n'a pas voulu envoyer un dur. Parce que précisément, la parole aurait semblé comme émaner du tempérament personnel de ce prophète. Et il n'aurait pas été assez évident que quand le Seigneur annonce des jugements, il le fait avec tristesse lui-même, non sans avoir compassion de ceux-mêmes qui doivent être châtiés pour leurs péchés. Alors il a envoyé un prophète pour qui c'était dur, qui s'est plaint, on le voit par la suite, d'avoir ce message à apporter, mais parce que cela correspondait à la manière juste d'annoncer un tel message catastrophique. Puis il y a peut-être même encore un détail très spécial à propos du temple. Il nous est dit qu'il était des sacrificateurs, des prêtres, d'Anatote en Benjamin. Mais quand on voit le reste de l'histoire biblique, en particulier ce qu'on voit dans le premier livre de Samuel et dans le deuxième livre des Rois au chapitre 2, on se rend compte qu'il appartenait certainement, puisqu'il était dans ce petit hameau d'Anatote, une famille de sacrificateurs, à la famille du sacrificateur Abiathar, destitué quand Salomon a succédé à David. Parce qu'Abiathar, qui était souverain sacrificateur, grand prêtre, au temps de David, avait fait part d'une conspiration contre Salomon. Il a été jugé, c'était l'accomplissement d'un vieil oracle sur la famille d'Élie à Silo, qu'on trouve au début du premier livre de Samuel. Il avait été destitué et il avait été indiqué que ses descendants ne pourraient pas exercer le sacerdoce. C'était des prêtres qui, en vertu de leur appartenance familiale, auraient dû officier dans le temple à Jérusalem, mais il y avait ce jugement, cette malédiction. Le jeune Jérémie avait en quelque sorte grandi dans cette ambiance d'une famille sur laquelle pesait une malédiction, un jugement. Or, c'est à cet homme-là que Dieu dit d'annoncer que le temple va être détruit. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez, et ça explique aussi certaines réactions contre lui et certaines réactions de ses proches dans sa famille, qui carrément avait monté un complot pour le mettre à mort, parce que sans doute ils avaient peur. Ils disaient, mais si lui qui est de notre famille proclame cela, il va y avoir une retombée contre nous. Alors, nous ne pouvons peut-être pas débrouiller tous ces détails, mais il me semble que nous voyons encore que Dieu, là, a choisi l'homme avec ses caractères très singuliers pour remplir le ministère qu'il voulait lui confier. Ézéchiel ensuite. Ézéchiel en terre d'exil, lui aussi de famille sacerdotale, l'année même où il aurait dû devenir prêtre dans le temple, sa 30e année, reçoit vocation de Dieu en exil. C'est un exilé. Il a été emmené captif en 597 avec une bonne partie du peuple, plutôt l'élite du peuple de Juda. Il est en Babylonie, très très loin de chez lui. Et en 592 avant Jésus-Christ, donc, à l'année où il aurait dû normalement officier au temple, Dieu l'appelle. Et c'est comme le relais par rapport au ministère prophétique de Jérémie, qui est encore en train d'exercer son ministère à ce moment-là, mais qui est maintenant un homme assez âgé. Alors je lis les 21 premiers versets. J'aurais voulu résumer davantage, mais je n'y arrive pas. Alors je lis les 21 premiers versets, puis quelques versets encore ensuite. D'Ézéchiel 1, premier chapitre. La 30e année, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Yoïakin, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, chacun d'eux avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était comme celle d'un pied du pied d'un veau, et ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. Quant à l'apparence de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, ou l'esprit. Et ils ne se détournaient pas en avançant. L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbons ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux, et le feu répandait une clarté, et du feu sortaient des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux, devant leurs quatre faces. L'aspect, la structure de ces roues avait l'éclat de la chrysolite, et toutes les quatre avaient la même apparence. Leur aspect, leur structure était telle que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient de leurs quatre côtés et ne se détournaient pas en avançant. Leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à toutes les quatre, étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, l'esprit, dans le sens du vent ou de l'esprit, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand elles s'arrêtaient, ils s'arrêtaient. Quand elles s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Puis encore, je passe quelques versets, puis au verset 26, tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône, et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu, qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et une clarté autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait, c'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'écoutais celui qui me parlait. Puis le Seigneur l'avertit qu'il va devoir parler à une engeance de rebelles, qu'il n'écoute et qu'il n'écoute pas, il faudra qu'il parle. Et versets 8 et suivants, « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il y était écrit en dedans et en dehors. Il y était écrit lamentation, plainte, gémissement. Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël. Et le récit continue, que nous n'avons pas le temps de lire tout en entier. À nouveau, vous percevez les correspondances avec les autres visions que nous avons vues, vision de l'éternel, sentiment d'être incapable d'accomplir la tâche du prophète, acte de l'éternel en faveur du prophète à ce moment-là. Mais vous remarquez aussi les différences. Cette fois, la vision de Dieu arrive au terme de quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ce qui est dit dans la vision. Il fallait le lire justement pour que vous ayez le sens de comment dessiner cela. Ça paraît vraiment tout à fait impossible. Ces roues qui s'enchevêtent, qui vont chacune dans son sens, et pourtant tout tient ensemble. Et ce feu partout, c'est d'une extrême étrangeté et d'une extrême complication. Ce qui ressort, me semble-t-il, quant au Seigneur, c'est sa transcendance. Sa transcendance supracosmique, car c'est une façon d'évoquer l'univers entier que la composition si étonnante de cette vision. Les roues, par exemple, certains pensent que ce sont les orbites des étoiles. Possible, en tout cas. Les animaux, qui sont appelés plus loin les chérubins, Kerouvim, avec ses quatre faces, représentent toutes les excellences de la création visible. Etc. Dieu apparaît au sommet de ce, comme vraiment transcendant, au-dessus de l'univers. Mais cette transcendance, vous le remarquez, a comme contrepoint que dans toute cette complication, il est simplement dit de lui une figure humaine. Figure humaine. Et puis, avec cette transcendance, la spiritualité de Dieu. Dieu comme esprit. Vous avez remarqué le nombre de fois où le mot esprit revient dans cette vision. Alors l'esprit qui meut les animaux, qui meut les roues, le vent de tempête, ou esprit de tempête aussi d'ailleurs. Parce que c'est le même mot dans l'original. Et Jésus encore, dans le dialogue avec Nicodème, a joué sur les deux sens, vent ou esprit. La spiritualité de Dieu, le prophète Ézéchiel est un prophète qui mentionne très souvent l'esprit de Dieu. Ce qui s'accorde, transcendance et esprit, avec la mobilité. Le trône de Dieu que voit Ézéchiel, comme Ésaïe avait vu le trône de Dieu, est un trône qui a des roues, c'est-à-dire un trône mobile. Or, ce qui justement va avec cette transcendance de Dieu qui n'est pas liée au monde, qui le dépasse infiniment avec sa spiritualité, c'est cette faculté de se mouvoir. C'est un Dieu qui est libre de se déplacer en quelque sorte, que ce Dieu spirituel. Alors face à ce Dieu, Ézéchiel ressent de nouveau son inaptitude. Quelle est sa manière à lui? Il est complètement abattu à terre, il tombait la face contre terre. Il est un peu plus loin, hébété ou agité. Il ne se sent plus, si je puis dire. 3, 18 et suivants. Attendez, est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment la référence, mais est-ce que je me... Je me trompe... Non, c'est 15 et suivants. C'est 14 et suivants. Un esprit m'enleva. Vous, c'est l'esprit, hein. Et m'emporta. J'allais irrité, furieux. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivais à Tel Aviv, pas Tel Aviv du temps moderne, mais le village, l'établissement des exilés en Babylonie, hein, c'est-à-dire la colline des épis, chez les déportés qui demeuraient près du fleuve du Kébar, et dans le lieu où ils demeuraient, là je demeurais 7 jours, accablé ou hébété au milieu d'eux. Voilà la manière d'Ézéchiel de se sentir écrasé par la tâche. Et comment le Seigneur le traite-t-il? Eh bien, nous l'avons lu. Il lui donne à manger un rouleau, un livre. Ça correspond à ce qu'il fait pour Ésaïe et pour Jérémie, quand on met les paroles dans la bouche. Mais là, c'est sous la forme d'un livre, sans doute parce qu'il fait partie des exilés et qu'il faudra envoyer le message à tous les Israélites dispersés. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'esprit. Il est là prostré, abattu à terre, et le Seigneur lui dit, debout, fils d'homme, sois un homme, l'esprit me fit tenir debout. L'esprit me fit tenir debout. Hier soir, quand nous avons chanté le chant qui dit « rempli de l'esprit debout », je me suis dit « tiens, ça prépare ce que je vais dire dans l'étude de demain matin ». C'est chez Ézéchiel qu'on trouve cet esprit qui rend apte le prophète en lui permettant de se tenir debout en serviteur responsable du message qu'il doit porter. Et lui aussi, bien sûr, a l'avertissement qui lui est communiqué que son message ne sera pas aisément reçu, que c'est à une engeance de rebelles qu'il faudra qu'il prêche. Alors ces notes-là, bien nous les retrouvons dans le message. En ce qui concerne la mobilité de Dieu, mais ça c'est ce qui structure tout le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel voit dans ce premier chapitre que le trône de Dieu est susceptible de déplacement, ce trône que le prophète Ésaïe avait vu dans le temple à Jérusalem. Eh bien au chapitre 10, Ézéchiel va voir que Dieu, sa gloire, son trône, quitte le temple. Ce temple est trop souillé par tout ce qui s'y pratique. Et Dieu qui va abandonner, comme l'avait annoncé Jérémie, ce temple au destructeur, quitte ce temple. Et dans la dernière partie du livre, dans la vision d'avenir, en langage peut-être difficile à déchiffrer, mais enfin, dans le langage d'avenir des grandes visions du chapitre 4 à 48, nous voyons la gloire de l'Éternel qui revient dans le temple nouveau, du régime nouveau que le prophète annonce. Donc, vous voyez, ce thème de Dieu qui est mobile, qui n'est pas rivé au temple de Jérusalem, qui peut le quitter, mais qui reviendra, est dans le livre vraiment ce qui structure l'ensemble du plan. Il y a aussi cette promesse extraordinaire faite aux exilés, que Dieu, dans leur éloignement, sera pour eux un sanctuaire. Qu'il est pour eux, dès ce temps-là, un sanctuaire. On trouve cette parole extraordinaire au chapitre 11. Dieu dit au chapitre 11, verset 16, si je les ai disséminés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un sanctuaire. Ils n'ont plus le temple de Jérusalem, les pauvres. Eh bien, ils ont bien mieux. L'Éternel, parce qu'il n'est pas arrivé à ce temple, peut être pour eux lui-même le temple, le sanctuaire. Oui, c'est un message extraordinaire. Et puis l'accent sur l'esprit, nous le retrouvons. Non seulement l'esprit très souvent transporte le prophète, mais le prophète annonce que Dieu va donner un esprit nouveau aux gens du peuple, qu'il va répandre sur eux son esprit comme une eau purificatrice et vivifiante. On trouve ça au chapitre 36. Et l'esprit est comparé à un grand fleuve sortant du temple au chapitre 47. D'une autre façon, il est aussi présenté comme la puissance de résurrection au chapitre 37. Vous vous rappelez la grande vision des ossements desséchés. Le prophète invoque l'esprit, esprit, souffle des quatre vents, et que ces morts revivent. Et c'est quand l'esprit entre en eux que la vie leur est rendue. Donc, vous voyez la correspondance. Elle est de nouveau frappante. Et cette correspondance, eh bien, c'était bien celle qui convenait au temps. L'accent sur la mobilité de Dieu, en fait, je viens de le dire à propos de Dieu devenant lui-même un sanctuaire, mais vous vous rendez compte que ça correspondait tout à fait à la situation de ces exilés. Ces personnes déplacées avaient besoin que le prophète leur dise que Dieu se déplace, l'Éternel. Sa transcendance supracosmique correspondait aux besoins de ces personnes déracinées. Maintenant, au milieu d'un univers symbolique qui leur était étranger. Dieu se montre vraiment le Dieu de l'univers dans sa transcendance, dans sa spiritualité qui ne correspond pas aux religions de la nature, mais qui se donne à connaître à l'homme. Et l'ajustement à la personnalité d'Ézéchiel, je crois aussi que c'est évident. Ézéchiel se montre comme un hypersensible, un homme à l'imagination débridée, une personnalité extrême, très abstrait aussi, d'où cette vision. C.S. Lewis, le grand apologète anglais, a dit à propos de cette vision d'Ézéchiel 1 quelque chose de, je trouve, sensationnel. Mais oui, ces circuits, ce feu, cette incelle, c'est... Curieusement, cette vision qu'a le prophète, en quelque sorte, anticipe par des millénaires sur les choses que les hommes vont inventer, que les ingénieurs modernes vont fabriquer. Étrange, mais je dirais que c'est une expression de cette spiritualité qui décolle de l'image simple de la nature. Expression de cette spiritualité. Ézéchiel, c'est une sorte d'ingénieur, mais d'ingénieur fantastique, visionnaire, et Dieu l'utilise comme ça. Dieu l'appelle selon un mode qui correspond à sa personnalité. Il lui confie un message qui est en accord aussi avec ses traits décisifs. Le quatrième, Daniel. Probablement du même âge qu'Ézéchiel, à une ou deux années près. Lui, il a été déporté parce qu'il a été pris comme otage plutôt qu'Ézéchiel. Il a fait partie d'un petit convoi d'otages pris en 605 à Jérusalem. Et il a occupé de toute autre fonction qu'Ézéchiel. Mais il avait sans doute à peu près le même âge, puisqu'il était adolescent en 605. Or, Ézéchiel lui-même avait 17 ans en 605. Donc, vous voyez, ça correspond. Ce sont vraiment deux contemporains. Daniel, le prophète Daniel. Où se trouve le récit de sa vocation ? Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez lui qui correspondent aux trois chapitres que nous venons de considérer dans les trois grands livres prophétiques. Et cela me semble hautement significatif et fort intéressant pour notre réflexion. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de vocation du même type ? Sans doute parce qu'il n'a pas été prophète de la même façon que les autres. Les autres ont eu un office public de prophète prêchant à leurs concitoyens. Mais Daniel, lui, n'a pas prêché sur la place publique. Daniel a été un prophète apocalypticien, comme on dit de façon plus technique, qui a reçu des visions pour les écrire et les diffuser. Ensuite, sous la forme écrite, son emploi à lui, c'était un emploi de haut fonctionnaire, ministre de l'Empire babylonien. Donc, il n'a pas été appelé de la même façon, mais il a quand même été, je pense, prophète de devait appelé par Dieu. Alors comment l'a-t-il été ? Eh bien, il l'a été, me semble-t-il, par le jeu des circonstances, où la main de Dieu était assez évidente, par les capacités que le Seigneur lui a données. Et nous voyons ça au deuxième chapitre. Comment est-ce que Daniel vient à être reconnu comme celui par qui Dieu parle, qui a en lui l'Esprit du Dieu Saint ? Bien parce que Dieu lui donne, dans une situation critique, la révélation du sens du rêve qu'avait reçu le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve, il dit que ce rêve lui a échappé, c'est pas tout à fait sûr, mais en tout cas il veut savoir le sens, personne n'est capable de le retrouver. Et Daniel et ses compagnons prient, Daniel reçoit l'explication de Dieu, et c'est cette qualification que Dieu lui a accordé pour expliquer l'énigme qui constitue le signe que Dieu vraiment parle par lui, l'a appelé à remplir ce ministère. Donc nous avons là chez lui les circonstances et les capacités qui lui sont données, et puis les visions qu'il reçoit par la suite certainement constituent aussi une façon pour Dieu de montrer que c'est bien en effet son serviteur. Et nous retrouvons alors, si nous prenons cet ensemble, les composantes que nous avons trouvées ailleurs, mais peut-être un peu modifiées. La vision de Dieu, elle est bien là, dans l'expérience de Daniel. Et quels sont les traits qui ressortent du Dieu se révélant à Daniel? Il me semble qu'il y en a deux, de nouveau, particulièrement marqués. L'Empire et l'Éternité. L'Empire, c'est le Dieu des cieux qui domine sur tous les peuples. Verset 21 du... Verset 20 déjà du chapitre 2. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Et à propos de cet empire et de l'éternité que vous voyez déjà impliqué dans les lignes que je viens de lire, on peut considérer sa grande vision du chapitre 7. Je regardais au verset 9, pendant que l'on plaçait les trônes, l'ancien des jours. Voilà le nom qui ne se trouve qu'ici dans la Bible pour le Père éternel. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers le servaient, des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Alors les bêtes sont jugées. Et puis au verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. L'Empire, l'éternité. On pourrait dire que si Ézéchiel a reconnu la transcendance de Dieu par rapport à l'espace, c'est la transcendance de Dieu par rapport à la durée qui est tout spécialement marqué dans le livre de Daniel. Son inaptitude à lui, eh bien, c'est l'effet physique que produisent les visions sur lui. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi. Mes visions m'épouvantèrent. Et plusieurs fois, il est dit que ses visions s'entrechoquèrent, ses pensées étaient tumultueuses dans son esprit. Mais Dieu, comment, face à cette inadéquation, comment alors traite-t-il son serviteur ? D'une part, en le consolant, une main me toucha, est-il dit au chapitre 9, au chapitre 10 également, et il lui a dit, tu es un homme bien-aimé. Ça lui est dit trois fois dans ces deux chapitres. Tu es un homme bien-aimé, un homme de prédilection de la part de Dieu. Et d'autre part, Dieu lui donne sagesse et intelligence. C'est cela qui lui est communiqué. Voilà les accents majeurs à propos de Daniel. Quant à l'opposition, eh bien, il suffit de se rappeler la fosse au lion, hein, se rappeler que lui non plus n'a pas eu toute facilité pour faire connaître le message qu'il recevait. Alors, alliance avec le message, je vais aller vite, mais il faut quand même dire ces choses principales. Le contenu du livre, c'est bien la révélation du plan de Dieu, avec ses temps et ses moments, avec les 70 semaines que le Seigneur a programmées. Et pourquoi ? Pour encourager les saints du Très-Haut qui sont en but à la persécution, et en particulier pour qu'ils endurent, connaissant que Dieu est le Dieu qui maîtrise la durée. Il s'agit pour eux d'endurer, eux qui sont persécutés par des empires païens. Vous voyez, la correspondance est excellente. Les fidèles de ce temps-là en avaient bien besoin. Ils étaient comme des fétus foulés aux pieds par les grands empires. Et à partir de ce moment-là, hein, vous pouvez noter que Israël-Juda a pratiquement toujours été simplement une partie, une annexe, une dépendance d'un grand empire, un des grands empires mondiaux. Il n'y a eu que 50-60 ans... Ils ont un peu soufflé entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais à partir de ce temps-là, la destinée d'Israël a toujours été dans un grand empire. Alors le message qui lui est donné, c'est le message de ce plan de Dieu pour les empires. Et puis Daniel lui-même est bien l'homme pour cela. C'est un gestionnaire, gouverner c'est prévoir, un homme qui doit penser dans la durée, un homme qui est discipliné, il priait aux trois temps fixés chaque jour, un homme qui sait bien gérer son temps, un homme de réflexion, qui étudiait les textes bibliques écrits avant lui, comme le montre le début du chapitre 9, c'était bien l'homme pour ce message. Alors je crois que je peux tirer maintenant très brièvement les conclusions, elles ressortent d'elles-mêmes. Pas de stéréotypes, une très grande diversité dans la manière dont Dieu appelle, et il appelle aussi des gens comme il a appelé Daniel, donc sans une vision très spéciale, sans un moment unique, mais en le montrant par les circonstances et les qualifications ayant une importance décisive. Mais dans tous les cas, il faut partir de la vision de Dieu. Une connaissance de Dieu, c'est lui qui doit être premier. Ça, je crois que c'est décisif. Je me rappelle, je glisse quand même ça, une réponse du grand prédicateur Martin Lloyd Jones, à qui on demandait comment reconnaître quand on croit avoir une vision, que c'est vraiment Dieu. Quand c'est vraiment Dieu, on ne peut pas ne pas éprouver une crainte sacrée devant sa présence. C'est si. C'est comme ça toujours dans la Bible. Ça me paraît une réponse impressionnante. Et toujours l'homme se sent inapte. S'il se sent trop capable, attention. Mais il reçoit de Dieu l'habilitation pour la tâche qui lui est confiée à ce moment-là. Et on s'aperçoit alors, peut-être après coup seulement, mais que c'est vraiment l'homme qu'il fallait pour le message qu'il lui est confié dans le temps où il est appelé à vivre. Alors je crois que le Seigneur agit comme ça avec nous aussi. C'est l'heure, malheureusement, je pense que... Enfin, je laisse au président de décider, je ne sais pas s'il faut aller tout de suite en bas.
C'est... Le prophète a prêché un peuple qui ne répondra pas vraiment.
Oui, c'est tout spécialement le passage d'Ésaïe 6 qui est impressionnant à cet égard. Il me semble que je peux au moins donner trois éléments de réponse. Bon, le premier élément est négatif. Je ne réponds pas du tout au pourquoi, mais je rappelle que quoi qu'il en soit de la souveraineté de Dieu qui s'exerce ainsi, la responsabilité de ceux qui ferment leurs oreilles, qui s'endurcissent le cœur, demeure entière dans les perspectives bibliques. On peut essayer de comprendre, mais en tout cas, si on ne comprend pas, il ne faut pas douter un instant de ce point, il est fermement établi bibliquement. C'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je crois qu'il est clair que Dieu désire que la responsabilité, précisément, de ceux qui refusent, soit pleinement établie. Dieu traite l'homme comme un partenaire responsable d'alliance, donc... Il ne se contente pas, je dirais, d'une incrédulité larvée, d'une opposition à lui qui demeure latente et dont l'homme, au fond, ne prend pas conscience. En donnant sa loi, déjà, c'est ce que dit Romains 7, Dieu donne le commandement, tu ne convoiteras pas, du coup, le péché prend vie. Mais il fallait qu'il y ait cette manifestation de ce qui est dans le fond du cœur de l'homme. Littéralement, Paul dit, il faut que le péché devienne... excessivement pécheur, qui montre toute sa virulence. Donc je crois qu'il y a cet aspect-là, établir la responsabilité, faire apparaître ce qu'il y a dans le fond du cœur des hommes. Alors que sans ça, ça pourrait très bien rester caché, masqué. Et troisièmement, je crois qu'il y a le plan de Dieu par rapport à Israël. Alors ça, c'est le plus compliqué, si vous voulez, mais je suis sûr qu'en théologie biblique, c'est quand même un point important. L'ancienne alliance devait aboutir à l'échec. Parce qu'elle ne. C'était pas elle qui était prévue pour conduire à la perfection, comme dit l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le but de Dieu. C'était pas la loi qui pouvait nous délivrer de nos péchés. Et il fallait faire la démonstration, en quelque sorte, que le système établi au Sinaï ne pouvait pas conduire au salut, comme tel. Alors, il y avait une sorte de nécessité historique que le régime de l'Ancienne Alliance aboutisse comme il a abouti. Avec tout de suite alors une addition, c'est, ça ne veut pas dire que tous les Israélites étaient du coup perdus. Cela veut dire qu'ils ne pouvaient être sauvés qu'en se désolidarisant de la masse rebelle du peuple, en constituant ce que les prophètes appellent le reste fidèle, et en regardant à l'avance vers celui qui devait venir, en comprenant que ce n'était pas le système de l'Ancien Testament qui leur permettait d'être sauvés, mais la grâce de Dieu qui préparait un salut duquel ils profitaient à l'avance.
Donc Dieu a établi une alliance qui échouerait pour montrer la supériorité de la nouvelle alliance.
Dans une certaine mesure, oui. C'est une démonstration de la nécessité qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la mort de son fils pour sauver. C'est inimaginable. Et l'homme ne veut pas croire d'emblée qu'en pratiquant les commandements et en faisant tous les rites, il ne puisse pas être sauvé. Alors cette démonstration est faite pour détruire les illusions, pour faire apparaître que Dieu est allé jusqu'à l'extrême du don de lui-même et que c'était la seule façon de nous sauver. Je schématise, hein, vous rendez compte que je réponds quand même, peut-être que c'est trop long, mais que je réponds quand même très brièvement à une grande, grande question.
Oui. Ce qui me frappe dans votre exposé, dans les exemples que vous avez donnés, c'est le fait que l'appel de Dieu s'adresse dans un contexte donné, c'est-à-dire que Dieu n'appelle pas en dehors, je dirais, de la personnalité, et que ça semble être quelque chose qui s'incarne dans un projet ça me paraît assez extraordinaire.
Oui.
Parce que finalement, on peut penser bon, que Dieu appelle un médecin à être secrétaire ou tout seul, mais en fait, c'est dans cette. La Isaïe qui était de grâce royale, il a reçu cette vision du roi, etc. C'est facilement sa musique.
Oui, ah, ça m'a frappé. Bon, je vous confesse une chose, c'est que beaucoup des pensées de ce que j'ai présenté ce matin, bon, je les ai depuis un certain temps, parce que je donne un cours sur les prophètes, mais que ça m'a fait du bien de faire enfin ce que je voulais faire depuis longtemps, de le faire pour vous ce matin, pour nous ensemble ce matin, une étude synthétique où je reprenais ces quatre, où je voyais les parallélismes et les différences. Je n'avais jamais fait jusqu'à présent, et vraiment, oui, en effet, et dans le sens en particulier que vient de relever Philippe.
On voulait...
Merci. Mais non, c'est très frappant. Je veux quand même dire une chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que Dieu montre sa liberté et que souvent, je crois qu'il nous percevons tout de suite cette correspondance entre la préparation d'un homme et la tâche qui lui est confiée. Mais que Dieu parfois se plaît aussi à renverser pour montrer justement qu'il est libre, transcendant, et il a quand même choisi des pêcheurs de Galilée qui n'étaient pas en principe très aptes à l'enseignement, des gens que les pharisiens docteurs de la loi méprisaient, mais quoi que ces gens-là, c'est des analphabètes, pour les former et faire d'eux les docteurs de sa nouvelle alliance. Bon, il a aussi pris Paul, bien sûr. Mais Paul, il a dû être singulièrement bousculé par Dieu pour justement qu'il ne croit pas que c'était... en vertu de ses dispositions naturelles simplement, ou même acquises, qu'il pouvait être l'apôtre du Seigneur. Il y a un piège là, n'est-ce pas ? La correspondance, elle est bonne, Dieu est heureux de la faire valoir, mais si nous croyons qu'alors ça va de soi, alors là nous sommes sur une très mauvaise pente. Et je me rappelle aussi un exemple moderne, vous avez peut-être vu des petits livres de Tozer, de cet Américain Tozer. C'est un homme qui a eu un ministère, je crois, très très influent parmi les étudiants. Le GBU américain, ses écrits, ses causeries ont eu beaucoup d'influence. Or, c'était un homme sans aucune formation académique. C'était un homme qui avait formé par sa lecture de la Bible ses expériences, mais le Seigneur lui avait donné une telle sagesse, une façon si simple de communiquer, qu'il a eu un... un très grand ministère, en milieu universitaire. Dieu se plaît de temps en temps au moins à faire ces choses. Donc il ne faut, faut surtout pas l'emprisonner dans le schéma de cette correspondance. Et Dieu se sert, oui, ça je voulais le... Je l'aurais dit si j'avais pris un peu plus de temps pour ma conclusion, mais enfin j'avais atteint mon temps. Hein. Dieu se sert des fragilités, pas seulement des dons, mais aussi des fragilités. Et fragilité de Jérémie, je l'ai dit. Fragilité d'Ézéchiel, je pourrais le souligner. Je crois qu'on peut dire que... je ne sais pas ce que le psychiatre pense de la personnalité d'Ézéchiel. Il ne paraît pas avoir été naturellement très équilibré, Ézéchiel. Très doué, mais pas très équilibré. Mais Dieu s'est servi de son extrémisme, de la bizarrerie de ses gestes et tout. Il les a intégrés dans l'exercice du ministère d'Ézéchiel. Et Dieu peut se servir de nos fragilités aussi.
Certaines situations aujourd'hui à propos de l'abortion, lorsque les jeunes se sont adoptés pour un service, on lui exigerait par exemple une formation théologique ou publique. Est-ce que ce que vous nous dites ne pas en cas?
Oui, ça remet en cause une application trop rigide. Des règles qu'il est sage de suivre ordinairement, mais que Dieu est toujours libre de lever. Et si nous ne sommes pas aussi souples que Dieu, si j'ose dire, si nous n'avons pas la souplesse d'admettre les modalités extraordinaires qu'il plaît à Dieu de susciter, eh bien, c'est triste, c'est dommage. Et je crois que l'Église y perd. Je crois que nous devons être ouverts à ces possibilités exceptionnel. Et je pense quand même que quand Dieu les suscite, oui, du point de vue du discernement de la volonté de Dieu, ça aussi j'aurais pu le dire hier, mais je veux le dire maintenant, il faut des signes d'autant plus tangibles, incontestables, qu'on s'éloigne de ce qui semble le cheminement logique. Dieu est capable de nous appeler à quelque chose d'apparemment très illogique. Bon, mais à ce moment-là, pour être sûr que ce n'est pas nos sentiments qui déraillent, simplement, il convient de lui demander des signes. Il convient d'avoir des confirmations de sa part et qui ne dépendent pas de nos seuls sentiments, des circonstances, des coïncidences extraordinaires, des avis de frères. On s'attendait à ce qu'ils disent non, puis justement, ils confirment des frères et sœurs sages dans le Seigneur, etc. Si nous ne recevons rien de très spécial, je pense que le mieux, c'est de continuer sur la voie où nous sommes. Ça correspond à l'enseignement d'un Corinthiens 7. Là où le Seigneur nous a pris, nous a appelés à la vie éternelle, nous devons penser que nous sommes bien, puisque c'est là qu'il nous a appelés. Alors nous y continuons, c'est-à-dire selon la logique de cette ligne-là. Si nous sommes étudiants en première année, nous n'en paraissons en première année, bien sûr, mais nous continuons ces études-là, vous voyez. C'est s'il faut changer, et si le changement paraît fou aux yeux des hommes, qu'alors, je crois qu'il est normal d'attendre de lui des confirmations spéciales, de lui demander. Et vraiment, le Seigneur en donne, de nos jours comme au temps biblique.
Scott, à la dernière question. Et puis, je propose après à ceux qui veulent discuter.
Je veux vous demander, est-ce que vous pouvez être prophète pour nous? Vous qui connaissez les églises évangéliques en France, dans le monde, quel rôle est-ce que nous jouons? Quel rôle ont les GBU dans l'église évangélique en France et dans le monde? Est-ce que nous avons une grande responsabilité? Est-ce que nous jouons notre rôle très bien? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, je ne suis pas du tout sûr d'être prophète en la matière. Hein. Je donne un avis de frère qui est bénéficié du GBU dès ma jeunesse, quand j'étais étudiant. Hein, dans les années 50, à la Sorbonne, eh bien, j'ai fait partie d'un petit groupe GBU déjà. Donc, je donne mon avis de frère qui a bénéficié des GBU depuis longtemps. Je crois qu'il y a une responsabilité énorme, ça c'est sûr. Je crois une œuvre que Dieu a suscitée, qu'il a étendue dans le monde de façon extraordinaire, que l'évangélisation du milieu étudiant est bien sûr, je pense, le premier objectif. Là, je ne suis pas sûr que le GBU français en particulier ait pu atteindre cet objectif comme il fallait. Et peut-être dans le monde non plus. On me demande si Dieu n'a pas suscité, bon, enfin c'est pas un mal finalement, c'est comme ça que Dieu s'y prend, mais d'autres mouvements de jeunesse ou parmi les étudiants aussi, parce que les GBU qui sont le plus anciens de ces mouvements évangéliques n'ont pas réussi à gagner le plan d'évangélisation autant qu'on aurait pu l'espérer à un moment. Ça c'est premier point. Deuxième point, je pense qu'il est très important que les GBU contribuent à l'approfondissement de la foi évangélique, à son ouverture. Franchement, je pense que pour des raisons sociologiques, psychosociologiques, nos églises évangéliques tendent parfois à une sous-culture au sens négatif du terme, à une compréhension étriquée de la Bible, trop superficielle, des recettes qui marchent et puis c'est tout, etc. Et je crois vraiment que le GBU a une responsabilité dans le sens d'un enrichissement, d'un approfondissement, d'une plus grande rigueur et une plus grande ampleur. Donc ça, c'est... Et je crois qu'il a joué ce rôle, effectivement, dans le monde entier, je pense, au GBU britannique et tous les ouvrages de sciences bibliques. C'est fantastique le travail qui a été fait. Ça a commencé très petitement. Le GBU britannique était faible dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quelques hommes de Dieu associés au GBU qui ont dit qu'il faut faire quelque chose pour écrire un manuel biblique. C'est encore un petit livre pour aider les étudiants à lire la Bible sans se laisser influencer par les théories de ceux qui la déchirent, etc. Qui la mettent en doute. Bon. Et puis troisièmement, je pense que les GBU ont un rôle important quant à la collaboration des églises évangéliques, à ce qu'on peut appeler un écuménisme évangélique basé sur la Bible. Le fait que les GBU soient un mouvement interdénominationnel, que des gens qui, je pense, pourront avoir un témoignage influent dans leurs églises, l'ont déjà, s'y rencontrent, travaillent ensemble, en communion ensemble, c'est très important pour lutter contre l'émiettement, contre les bisbis, etc. Donc là, je vois là, les grandes responsabilités des GBU. Et je pense que, en particulier pour les objectifs 2 et 3, le GBU a vraiment fait déjà beaucoup dans le monde.